Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Place du Palais Bourbon, le podcast qui connecte élus et citoyens.
Mes chers compatriotes, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme.
J'ai l'honneur de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Je souhaite que la Providence veille sur la France. Pour son bonheur.
Liberté, égalité, fraternité.
Et pour sa grandeur.
Bonsoir.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Très bien, et vous?
Ça va.
Alors, pardon, je m'installe un peu.
Ouais, je vais mettre mes écouteurs, moi, pour que ça fasse un meilleur son. Ah, quoi que non, remarquez. Non, je le micro.
Comment allez-vous, alors?
Ça va, j'ai réussi à me connecter à Instagram, c'est un miracle.
Ça, c'est bien.
Voilà, j'entre dans le 21e siècle.
Eh bien, félicitations. Il était temps, n'est-ce pas?
2021, oui, il était temps.
Non, c'est bien, mieux vaut tard que jamais. Voilà, hein.
on va dire ça.
On va se consoler comme ça. Non, en tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir ce soir. On reprend les lives, nous, de notre côté. Enfin, de notre côté, je dis nous, mais comme si on était 25. Je suis toute seule, en fait, avec Maïlys, la super stagiaire que je salue ce soir. Donc, on a décidé quand même de reprendre les lives. Et vous êtes la première qui revient sur ce nouveau format, qui est un format un peu ancien qu'on a recyclé, mais qui fonctionnait vachement bien. En fait, les lives, je les avais lancés pendant le premier confinement. Et c'était super cool, ça fonctionnait bien, les gens étaient ravis. Et là, on s'est dit, allez, on relance, ça va être fun. Donc du coup, l'idée, c'est juste de parler un peu de l'actualité parlementaire, voir ce qui se passe un peu à l'Assemblée nationale. Et je sens que ça va être intéressant. Et puis après, parler un peu de vous aussi, savoir ce qui vous a amené où vous êtes aujourd'hui, quelles sont vos ambitions, vos engagements, tout ça, tout ça. Voilà, donc déjà, merci beaucoup d'avoir accepté votre invitation. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a les internautes qui peuvent, enfin les Instagrammeurs et Instagrammeuses qui peuvent réagir. Et du coup, on posera quelques questions, si ça ne vous dérange pas, avec le chat, pour voir qui a envie de participer, de vous poser une question. Voilà, donc est-ce que vous pouvez déjà vous présenter un peu pour nous dire quelle circonscription vous êtes, quel groupe vous êtes, ce que vous faites à l'Assemblée, tout ça, s'il vous plaît.
Alors, donc moi, je suis Fiona Lazare, je suis députée du Val d'Oise sur la 5e circonscription. Donc, j'ai deux grosses communes, Argenteuil et Besançon, donc un territoire très urbain et plutôt populaire. J'étais, depuis le début du mandat, commission des affaires sociales et j'ai récemment bougé pour la commission du développement durable et d'aménagement du territoire parce qu'on a quelques textes importants qui arrivent sur le sujet. Je pense qu'on va en parler. Je suis vice-présidente de la délégation aux droits des femmes. Mmh. Et puis, je préside également le Conseil national de lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté, donc qui est un conseil qui dépend du Premier ministre, qui regroupe 64 participants avec des représentants des grosses associations, d'ailleurs pas que des grosses associations, des associations qui luttent contre l'exclusion et la pauvreté, des collectivités, des syndicats, des parlementaires, etc. Et puis un deuxième collège qui fait 50% des participants qui sont des personnes directement concernées par la pauvreté. Et donc, on essaye de faire des propositions au gouvernement, de l'orienter dans ses décisions et d'être force de proposition et aussi, quelque part, un organe, on ne va pas dire de contrôle, parce que ça, c'est le rôle du Parlement, mais en tout cas, une boussole, on va dire.
Super, je viens de voir qu'il y a une de vos collègues qui vient de se connecter, alors on la salue, bonsoir Laetitia Avia.
Bonsoir Laetitia.
Donc voilà, je vous interromps pour ça, mais génial en tout cas. Alors, quelles sont les actus dont vous vouliez nous parler justement? Vous disiez qu'il y a des nouveaux textes, des textes importants sur ces questions-là qui sont en débat actuellement à l'Assemblée ou qui vont arriver, qui seront bientôt inscrits à l'ordre du jour?
Oui, alors le gros texte qui arrive à l'Assemblée, qui est à l'Assemblée d'ailleurs, qui commence à être étudié, c'est le texte qui est issu de la Convention citoyenne pour le climat, donc le texte climat-résilience. Et donc, c'est un texte qui vise à inscrire dans la loi une partie des propositions que les citoyens ont évoquées. Leur objectif à ces citoyens, c'était d'apporter des réponses à la question comment réduire d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 dans le respect de la justice sociale. Donc moi, j'aime bien aussi la fin de la question parce que, comme on le sait, comme on l'a vu, la question de l'environnement, la question de la lutte contre le réchauffement climatique, elle concerne tout le monde, elle doit concerner tout le monde, mais surtout elle doit embarquer tout le monde et pas être vécue comme une contrainte, notamment pour les foyers les plus précaires, pour qui une augmentation de telle ou telle taxe, finalement, peut devenir un vrai frein, une vraie difficulté supplémentaire. Donc la question de la justice sociale, je crois qu'elle est importante. C'est un des sujets sur lesquels je vais travailler dans ce texte.
Super, intéressant ça. Et du coup, le calendrier est un peu plus précis maintenant. Vous connaissez à peu près les dates de commission, hémicycle, comment ça va se passer? Vous avez...
Alors, les commissions spéciales ont commencé. Okay. Les auditions ont démarré. Il y a un programme de dingue avec des du matin au soir tous les jours. Et je crois que l'inscription en commission doit être la deuxième semaine de mars, donc voilà, dans une dizaine de jours maintenant. Donc ça vient assez vite. Le texte est dense, mais voilà, on est en train de le creuser, de défricher un peu tout ce qu'il y a dedans, de s'appuyer aussi sur les différentes analyses qu'il y a pu avoir. Je pense notamment au Conseil pour le climat qui a bien planché sur le texte et qui a fait un certain nombre de... Et puis après, voilà, il y a des auditions de toutes les grandes associations en ce moment, par exemple. Donc on essaye de s'appuyer sur leur expertise pour voir comment est-ce que le texte est satisfaisant à l'État. À l'évidence, non, mais quand un texte est présenté comme ça, c'est aussi pour ça que c'est important que les parlementaires y travaillent, qu'on puisse faire un certain nombre d'amendements pour faire bouger le texte autant que.
Bien sûr. Alors, j'en profite justement pour vous demander un peu des précisions et aussi que nos auditrices et auditeurs comprennent un peu comment ça fonctionne, quelles sont un peu quelle est la cuisine, les coulisses de l'Assemblée nationale. Donc là, c'est une commission spéciale qui a donc été demandée par le gouvernement, si je ne me trompe pas.
Skinner, pardon ?
Qui a été demandée par le gouvernement, la création de la commission spéciale pour le texte.
La commission spéciale, c'est les parlementaires qui décident.
C'est les parlementaires qui ont demandé, ok.
Et la commission spéciale, elle a cet avantage, alors je ne sais pas si on peut dire que c'est un avantage, mais c'est qu'elle est transcommission en fait. Vous n'avez pas besoin de siéger dans une commission pour en faire partie. Donc il y a dans la commission spéciale, moi-même je n'en fais pas partie, mais ça ne nous empêche pas de pouvoir accéder au contenu et aux auditions, de pouvoir avoir autant des membres de la commission des lois que de la commission des affaires économiques, que de la commission des affaires sociales, du développement durable. En fait, ça permet d'avoir un peu tous les points de vue avec des axes différents autour de cette commission. Et donc, il y a plusieurs rapporteurs thématiques qui ont été nommés dans cette commission pour adresser les différents sujets de la commission qui sont... Et à noter aussi peut-être, et je pense que c'est important, et le gouvernement insiste pas mal là-dessus, c'est que... Donc c'est un texte qui est issu des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, mais il n'y a pas que ça pour répondre à ces ambitions. Le gouvernement a d'ores et déjà pris un certain nombre de mesures qui venaient répondre à certaines des revendications de la Convention citoyenne pour le climat dans le plan de relance, la loi de finances. Voilà, donc ça vient compléter toutes ces dispositions.
D'accord. Quel est votre avis global sur le texte à ce stade?
Alors, j'ai envie de dire c'est mieux que rien.
Ok.
Non, il y a un certain nombre de pensées. Ce qui ressort pour l'instant, et encore une fois, on démarre l'examen, mais c'est que ça reste un texte qui est, à minima. Donc, les ambitions par rapport à ce qui était voulu par la Convention citoyenne pour le climat. Les ambitions sont revues à la baisse sur un certain nombre de sujets. Parfois, les délais sont, les objectifs, on les fixe dans des délais qui sont très éloignés. Donc, il y a une déception. On ressent une certaine déception de la part de certains membres de la Convention citoyenne pour le climat et des acteurs spécialisés dans la matière. Mais voilà, je pense que c'est mieux que rien. Et surtout, c'est aussi la première fois qu'on a un travail comme ça avec une convention citoyenne qui se réunit, des citoyens tirés au sort, qui planchent sur un sujet et pas sur n'importe quel sujet, un sujet hyper important qui doit mobiliser toute la société. Et je trouve ça assez intéressant, cet exercice démocratique finalement, où on a à la fois un mix entre la démocratie directe où les citoyens réfléchissent, travaillent, proposent, qui s'articule avec la démocratie représentative, avec les parlementaires qui se saisissent de ces propositions en s'appuyant sur le projet de loi du gouvernement. Donc il y a quand même un entre-deux qui vient faire le tampon, on va dire. Et donc à nous, parlementaires, de nous saisir de ce qu'a écrit le gouvernement à partir des propositions de la Convention pour le climat, pour soit entériner tel quel ce qui a été proposé par le gouvernement, soit le faire évoluer dans le sens de la Convention citoyenne pour le climat ou dans un autre sens. Voilà, il y a dans tous les textes, vous savez, il y a des forces contraires qui s'affrontent, entre guillemets. Il n'y a pas de raison que sur ce texte, ce ne soit pas le cas.
Oui, d'autant plus que, si mes souvenirs sont bons, il y a eu quand même quelques critiques par rapport au texte qui a été présenté par le gouvernement, qui était finalement un texte beaucoup moins ambitieux que ce qui avait été initialement promis par le président de la République, en tout cas à ceux qui ont participé à la Convention citoyenne, les 150 citoyens tirés au sort. Et justement, vous, en tant que parlementaire, est-ce que vous avez des relations avec les membres de la Convention? Est-ce qu'ils vous demandent, est-ce qu'ils vous épaulent dans le travail de la Commission actuellement et des parlementaires? Est-ce que, par exemple, ils essaient de rétablir peut-être des mesures qui ont été exclues par le gouvernement en passant par vous? Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut imaginer, par
exemple? Oui, quelque chose qu'on peut imaginer. Et d'ailleurs, vous savez, c'est ce qu'on fait sur tous les textes. Hein. Sur tous les textes, on a des citoyens, on a des acteurs associatifs, on a des lobbies, on a pas forcément des méchants lobbies comme tout le monde l'entend, avec des pots de vin et autres. Non, on a juste des représentants de l'intérêt nous convaincre que telle ou telle mesure est à privilégier plutôt qu'une autre. Et donc, il n'y a pas de raison que les membres de la Convention citoyenne pour le climat ne fassent pas la même chose. Ils ont des choses à défendre, à nous de les entendre, de décider, d'arbitrer sur ce qui nous semble le plus juste et le plus équilibré, parce que notre rôle aussi, ce n'est pas d'entendre qu'un son de cloche, mais c'est d'essayer d'entendre l'ensemble des acteurs, l'ensemble des points de vue, pour essayer de trouver un point un peu médian qui puisse convenir au plus grand nombre. Et c'est bien là notre rôle, hein, c'est de privilégier l'intérêt général, de trouver les points de vue qui vont dans le sens de l'intérêt général.
Oui, c'est certain. Et petite question qui me trotte dans la tête depuis que vous avez commencé. Qui sont les acteurs que vous auditionnez actuellement sur ce texte?
Alors, il y a plein de toutes les grosses associations, les associations écolo, les associations de consommateurs, les membres de la Convention citoyenne pour le climat, le Haut Conseil pour le climat. Voilà, tout finalement, ceux qui sont engagés sur le sujet, les spécialistes du sujet, et puis après, thématique par thématique, il va y avoir des auditions. Encore une fois, moi, je ne suis pas membre de la Convention, donc pas membre de la Commission spéciale, donc j'essaye de me rattacher autant que possible, mais il y a tout un volet sur la publicité, comment mieux encadrer et réguler la publicité. Et ben, dans ce cadre-là, forcément, il va falloir entendre les acteurs qui seront directement impactés par ces mesures, les acteurs de la publicité. Donc, sur chaque thématique, en fait, c'est important d'avoir tous les points de vue, tous les sons de cloche.
Oui, bien sûr. Vous avez des industriels quand même, j'imagine.
Pardon?
Il y a des industriels aussi, j'imagine.
Oui, oui, dans tous les sujets, il y a des industriels, effectivement.
Oui, parce que vous avez mentionné les associations, etc. Mais j'imaginais qu'il y avait aussi certaines entreprises privées qui peuvent avoir des intérêts aussi à se prononcer sur ce type.
Oui, et souvent les organisations professionnelles, soit souvent.
Oui, bien sûr, qui représentent un secteur.
Qui sont des représentants des secteurs et qui ont des points de vue à défendre.
Oui. À ce stade, est-ce que vous avez déjà identifié, vous ou bien sûr d'autres parlementaires, des points sur lesquels vous savez que ça va être difficile de débattre, des points sur lesquels vous savez que les débats vont être intenses, que même peut-être que du côté du gouvernement, il va y avoir des choses difficiles à faire passer
Ouais, alors je suis en train de défiler là, et bon, il y en a un qui me fait un peu rire, mais... On va voir ce que ça va donner, mais il y a la question, par exemple, de la lutte contre l'artificialisation des sols, par exemple. Mm-hmm. Sur mon département, c'est un vrai sujet. On avait au Triangle de Gonesse le projet Europa City. Ouais. C'est un énorme projet économique porté par un énorme privé qui devait investir X milliards d'euros sur un territoire défavorisé, c'était censé créer 10 000 emplois pour justement des questions de respect de l'environnement, de la transition écologique et de ce que l'on veut créer comme modèle économique et écologique pour demain. Le projet est retoqué par le gouvernement justement dans cette idée de ne pas artificialiser des terres agricoles. Donc le projet a été abandonné et très clairement, ça fait beaucoup de remous sur le terrain parce que, pour des raisons écologiques qui sont des bonnes raisons, le projet a été annulé. Mais en face, on avait des milliards investis, on avait des emplois à pourvoir, de la formation à pourvoir pour des populations qui en ont besoin, où on n'a rien à la place. Et donc, il y a un vrai débat. Et vraiment, c'est dans la loi, mais ce n'est pas que dans la loi, c'est aussi dans la vraie vie chez les gens sur les territoires que ça se pose, et donc on a une ZAD qui a commencé à s'installer. Enfin, voilà. Donc la question de l'artificialisation des sols, je crois que c'est un sujet qui est compliqué, mais qui doit être traité. Il y a un autre sujet qui me fait penser un peu à l'actualité, c'est la question de l'alimentation saine et durable. Mmh. Alors, je pense qu'on va se réinviter les débats sur, les cantines, les cantines végétariennes, les repas végétariens dans les cantines scolaires vont se réinviter et les polémiques vont peut-être enfler. Il y a un autre sujet qui était porté par la Convention citoyenne pour le climat et qui, je crois, n'est pas dans le texte et qui, sur le volet se nourrir et le volet justice sociale, pour moi, est très important, c'est la question des chèques alimentaires durables. Ça, c'est pas inscrit dans le texte, il me semble, alors qu'il y avait un engagement quand même. Moi, j'espère qu'on va à l'inscrire dans le texte par voie d'amendement et que les budgets qui seront mis en face seront à la hauteur parce qu'il y a un besoin. On le voit aujourd'hui, les étudiants notamment, on parle beaucoup de la détresse des étudiants qui font la queue pour bénéficier de colis alimentaires. Il y a les étudiants, il y a les jeunes dans leur ensemble, parce qu'il y a les étudiants, mais il y a aussi d'autres jeunes. Et puis, on le voit bien depuis le début de la crise, la pauvreté, la précarité, malheureusement, ça croît. On aurait gagné, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, il y aurait 1 million de pauvres dans notre pays. On serait passé de 9 millions à 10 millions de pauvres dans notre pays. C'est énorme, c'est énormissime. Et c'est bien que les familles les plus précaires, les plus populaires, ont des difficultés pour se nourrir, déjà pour se nourrir tout court. Quand on fait la queue pour l'aide alimentaire, c'est qu'on a des difficultés pour se nourrir tout court, mais d'autant plus pour se nourrir correctement, pour se nourrir. Moi, sur mon territoire, sur ma circonscription, qui est un territoire très, très populaire, on a un habitant sur quatre à peu près qui vit sous le seuil de pauvreté. C'est un des territoires où il y a le plus d'obésité en France. Donc pas parce que les gens ne mangent pas assez, mais parce que les gens mangent mal, ils n'ont pas accès à une alimentation de qualité, ils n'ont pas les moyens d'accéder à cette alimentation. Donc je crois que ces chèques alimentaires pour une alimentation saine et durable, ils seront vraiment les bienvenus, justement, dans le social.
Alors on compte sur vous alors. Bon, et sinon, quoi de neuf à l'Assemblée, hormis tout ça?
Ben sinon, à l'Assemblée, alors cette semaine, il y a une pause d'une semaine, donc ça fait pas de mal. On reprend donc lundi de plus belle. Mmh. On a arrêté sur le texte. Alors, il y avait eu le texte de la niche socialiste, et puis il y a eu le gros texte sur les principes républicains qui nous a pas mal mobilisés toutes et tous pendant cette semaine. C'est pas fini. On va voir si le Sénat le vote. Ouais. Ou pas,
j'ai vous, avez voté pour ou contre ou...
Eh ben moi, je me suis abstenue.
D'accord.
Je me suis abstenue parce que, pour plusieurs raisons, je crois que l'objectif.
Ah, on vous a perdu. On ne vous entend plus. Ah ben. Est-ce que vous pouvez reprendre votre phrase? Pardon, ça a coupé.
Ouais,
vous êtes abstenue.
Je me suis abstenue. Pour plusieurs raisons. Déjà, la première, oui, c'est bien que l'objectif du texte, renforcer les principes républicains, je pense que bon, personne ne peut s'opposer à cette volonté, cet objectif. Et puis, quand on regarde mesure par mesure, finalement, on va venir apporter parfois un certain nombre de protections. Alors, je pense par exemple à la lutte contre l'excision, contre la polygamie, pour tout ce qui concerne la dignité, les droits des femmes. Je pense que ce sont des sujets sur lesquels on ne peut pas, juste pour que ces dispositions-là puissent entrer en vigueur, même si certaines sont plus des effets d'annonce et de communication qu'autre chose en réalité. Voilà, s'opposer au texte, ce serait dire quelque part, je suis pas contre tout ça. Bon, ça me semblait un peu difficile. Après, il y a quand même des sujets où on se dit, est-ce que l'État n'avait pas un peu trop son nez dans les associations, dans les cultes? Est-ce que c'est le rôle de l'État de mettre autant son nez dans les cultes? Est-ce que l'État ne toucherait pas un peu trop à certaines libertés individuelles? Certaines libertés tout court, donc je pense à la liberté d'association, de culte, et quand je parle de ça, je me dis que ça vient aussi peut-être dans un truc un peu global où il y a eu quelques droits, quelques libertés ces derniers temps qui ont été un peu abîmés, on va dire. Je pense aux manifestations, par exemple, le droit de manifester qui a été ces derniers temps, je pense à la liberté au droit de la presse qui a pu être aussi un peu esquintée ces derniers temps.
La liberté, ça commence à faire beaucoup, quoi.
Académique ces derniers temps aussi, où on a eu encore un débat supplémentaire. Donc voilà, je n'ai pas voté contre parce que il n'y a pas une mesure qui m'a fait dire c'est un texte qui est dangereux. La liberté d'enseignement aussi qui est touchée. Et dans le même temps, moi, je suis aussi consciente qu'il y a un certain nombre de gamins qui peuvent être en danger, qui peuvent être embrigadés, et que ces gamins, ils seraient mieux à l'école publique, clairement. Mais est-ce qu'il faut pénaliser toutes les familles pour celles-là? Voilà, c'est toujours un difficile équilibre à trouver. Et donc, moi, je me suis abstenue. On verra ce que dira le Sénat. Je pense que le Sénat risquera de durcir. Un peu plus, vu les propos que la droite a pu avoir à la fois dans l'hémicycle et dans les médias. J'espère que le gouvernement va résister à toutes ces offensives parce que on est dans un état de droit, liberté, égalité, fraternité, et il ne faudrait pas qu'un texte de loi vise une catégorie de la population plutôt qu'une autre. Et c'est peut-être que certaines et certains nos concitoyens ont pu avoir depuis le début des débats sur ce sujet. Et il ne faudrait pas venir amplifier tout ça avec le passage au Sénat.
Oui, il y a le risque, effectivement. Bon, merci beaucoup. On va parler de vous un peu, quand même. J'ai trouvé une transition intéressante. Vous parliez des libertés qui reculaient. Est-ce que c'est ça qui vous a fait... Est-ce que c'est cette prise de conscience sur les libertés qui reculent par le fait du gouvernement, hein, aussi bon la situation sanitaire et bien sûr le contraint à certains égards à devoir restreindre nos libertés, qui sont, enfin, certaines restrictions sont parfaitement acceptées d'ailleurs par un grand nombre de Françaises et de Français. Néanmoins, effectivement, il y a quand même, comme vous le releviez, un certain, comment dire, je dirais pas acharnement parce que le mot est un peu fort, mais en tout cas, certaines libertés ont été abîmées, froissées, ça c'est certain, ces derniers temps, de manière totalement assumée par ailleurs, hein, sans trop de mea culpa. Est-ce que c'est ça qui vous a fait quitter La République En Marche ?
C'est ça qui m'a fait clairement quitter La République En Marche. Une succession comme ça de... alors, parfois de textes, de lois. Je pense par exemple au texte sur la sécurité globale. Moi, ça a été un peu le déclencheur. Donc, il y a les textes de loi. C'est très important parce que c'est ce qui va finalement être appliqué par la suite. Voilà, il n'y a rien de plus fort que la loi. Mais il y a aussi tous les débats, toutes les prises de position, toutes les... tout ce qui a accompagné ce texte de loi, qui pour moi sont profondément délétères. Et clairement, hein, au moment où on est tous privés de liberté à cause du Covid, les gens n'ont pas le bol, mais ils font le dos rond parce qu'on n'a pas le choix, c'est pour des questions sanitaires. Donc on est privés de liberté, mais on sait pourquoi, donc on fait le dos rond. Certains ne suivent pas complètement, mais quand même la grande majorité fait des efforts tous les jours pour respecter les contraintes sanitaires. Et c'est dur pour tout le monde depuis un an, pour tout le monde. Et en plus de cette pression-là que les citoyens ont et subissent, et quand je parle de cette pression-là, on peut parler aussi de ceux qui ont perdu leur job, enfin voilà, tous ceux qui vivent dans des conditions... insalubre et autres pour qui c'est encore plus difficile. Mais en plus de toute cette pression-là, on vient de créer des textes de loi sécuritaires qui viennent entraver un peu plus nos libertés, qui viennent aussi dans un contexte finalement, est-ce que c'est ça que les Français attendent ? Est-ce que c'est ça dont les Français ont besoin ? Est-ce que les Français n'ont pas plus besoin d'être rassurés ? Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de protection ? Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de se dire que les choses vont enfin voilà, que le gouvernement les accompagne pour que ça aille mieux et pas que le gouvernement trouve un ennemi et passe ses jours et ses nuits à tomber sur un ennemi qui finalement aujourd'hui l'ennemi c'est pas telle ou telle communauté, c'est pas telle ou telle partie de la population, le seul ennemi c'est le Covid. Et voilà, j'ai trouvé qu'on avait un peu essayé de braquer, de changer de braquet le débat, et il m'a semblé que c'était pas très sain. Et quand je parle de telle ou telle communauté, ça peut être aussi les journalistes. On a vu les offensives qu'il y a eu contre la liberté de la presse dans la loi sécurité globale. On a vu des policiers pendant les manifestations qui ont été mis en garde à vue, voire pour certains, et c'est pas une généralité, hein, mais quand même, qui ont pu être nassés, voire tabassés. Voilà, moi, c'est pas ça que j'imaginais dans une grande démocratie et dans le parti libéral que devait être La République En Marche. Donc, déception à cet égard. Et puis aussi, réaliser que tout le discours sécuritaire a pris l'ascendant sur tout ce pourquoi moi je m'étais engagée en 2017, c'est la question de l'égalité des chances. Moi, je veux que l'on puisse accéder aux mêmes écoles, qu'on puisse accéder aux mêmes services, qu'on puisse accéder au même boulot, quel que soit le milieu d'où on vient, son territoire, la ville d'où on vient, l'école qu'on a faite, son nom, sa photo sur le CV. Et là-dessus, il y a eu des choses de fait. Le dédoublement des classes en CP2 depuis le début du mandat, c'est génial. C'est une super mesure. Moi, je la revendique. Je suis très fière qu'on ait fait ça. Mais depuis ça, il n'y a plus grand-chose, quoi. Et depuis ça, ça a été la loi CILT, la loi Zégénie, la loi sécurité globale, etc., 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 où finalement, on se dit, en fait, on veut régler les problèmes de société par du tout sécuritaire, mais on oublie la base qui est précisément d'agir sur les causes de tout ça, et les causes, elles sont sociales. Quand on vit dans des conditions indignes, particulièrement en période de Covid, eh bien, on peut, malheureusement, aujourd'hui, l'ascenseur social, il est en panne, quoi. Donc voilà, je pense qu'on n'a pas fait assez en la matière.
Est-ce qu'il a vraiment déjà vraiment bien fonctionné?
Il a fonctionné. Ouais. Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde, pour certains. Et j'ai plein d'exemples autour de moi, donc on peut dire qu'il a fonctionné pour certains, mais il ne faut pas se dire parce qu'eux ont réussi, tout le monde a réussi. Et ceux qui n'ont pas réussi, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu ou ils ne se sont pas donné les moyens. Non, je ne pense pas que ce soit ça. Et je pense qu'il faut continuer à donner des moyens là où on en manque. On dit toujours qu'on a déversé des milliards dans les banlieues. C'est pas vrai. Si on regarde par rapport au nombre d'habitants dans ces quartiers-là, c'est juste pas vrai. Moi, ça fait 2 ans que je réclame qu'on ait un outil qui permette de mesurer l'équité territoriale. Quand on prend une mesure, quel impact elle va avoir sur un territoire par rapport à un autre ? On n'est pas capable de dire ça. Moi, j'aimerais qu'on soit capable de le mesurer pour voir si effectivement, quand on supprime un certain nombre de fonctionnaires, quel impact ça va avoir. Est-ce que le commissariat d'Argenteuil, comparativement avec un commissariat au cœur de Paris, on a le même nombre de policiers? La réponse est claire, c'est non. Est-ce qu'on a des policiers qui sont expérimentés? La réponse est claire, c'est pas le même niveau de formation et d'expérience. Donc, et c'est pareil pour les profs, enfin voilà, c'est pareil pour tout un tas de secteurs. On a un hôpital, on a du mal à avoir des soignants. On est à 10 minutes de Paris, mais les soignants, ils préfèrent être à Paris parce que les conditions de travail ne sont pas les mêmes. Et donc ça, c'est pas acceptable. Donc il faut qu'on arrive à avoir des mesures qui permettent de rééquilibrer les choses, de faire en sorte que quand on a un hôpital qui tourne et qui tourne beaucoup parce que dessert un territoire qui est grand et où forcément plus c'est populaire, plus les personnes ont des pathologies chroniques liées aussi à leur condition de vie, à leur condition sociale. Voilà, il faut qu'on soit capable de remettre de l'équité entre les territoires.
Bien sûr.
Ça, aujourd'hui, on n'est pas au rendez-vous.
Ouais, il y a encore du boulot, ça c'est certain. Vous voulez nous raconter un peu votre histoire, s'il vous plaît, nous raconter d'où vous venez, qu'est-ce qui vous a amené à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui a fait qu'un beau jour, enfin, de juin 2017, si je ne me trompe pas, vous avez poussé les portes
de l'institution. J'ai été élue, c'est ça qui a fait que j'ai poussé les portes. Moi j'ai grandi dans le Val-d'Oise, à Saint-Ouen-l'Aumône, donc pas très loin de là où je suis élue aujourd'hui. Donc, il y a un territoire assez populaire. Moi, je fais ma scolarité en ZEP, en zone d'éducation prioritaire. Et puis, suite à ça, je suis allée à la fac à Cergy, donc dans le secteur, parce que quand on vient d'un territoire un peu populaire, mais d'ailleurs, dans la ruralité, c'est pareil, hein, on s'imagine pas toutes les opportunités qu'il peut y avoir ailleurs, donc on reste dans le secteur. Donc voilà, c'est un peu. On a un champ des possibles qui est fermé, et moi c'est ça que j'aimerais qu'on soit capable de faire, c'est ouvrir le champ des possibles de nos jeunes pour qu'ils se disent que tout leur est ouvert, tout est possible.
Ce serait la plus belle promesse. La plus belle promesse.
Voilà. Et après ça, donc j'ai fait l'ESSEC, qui était juste à côté, donc à Cergy aussi, que j'ai fait en alternance chez Emmaüs, donc dans l'associatif, dans une communauté Emmaüs, donc avec 45 compagnons d'Emmaüs, donc 45 bonhommes abîmés par la vie, vraiment qui ont eu des accidents de la vie, des accidents de parcours qui ont fait qu'ils se sont retrouvés sans rien et qui, grâce à Emmaüs, finalement, retrouvent une dignité, retrouvent un rythme de vie et puis quelque part... se remettre dans une dynamique qui va leur permettre peut-être pour certains de se réinsérer. Et donc ça a été une vraie école de la vie, cet apprentissage qui a continué de forger mes convictions et mes engagements. Et puis après ça, du coup, je suis arrivée sur le marché du travail en 2008, donc en plein cœur de la crise. Et donc, j'ai vu la galère que c'était, même lorsqu'on est diplômé d'une belle école, de trouver un premier job. Et donc, j'ai commencé, j'étais surdiplômée, sous-payée, mais dans une belle boîte. J'étais chez Suez, dans l'environnement. Et donc, moi, j'avais besoin d'un métier avec du sens, donc ça m'allait bien. Et donc, j'ai bossé chez Suez pendant 8 ans, avant de découvrir Emmanuel Macron. Et j'ai eu, comme beaucoup, une envie de le soutenir, envie de le suivre. Il m'a redonné espoir, il m'a redonné un peu d'appétence pour le monde politique et puis surtout Moi, je me suis engagée localement. On a créé un comité En Marche à Argenteuil. Et donc, on a milité pour qu'il soit élu. Et moi, vraiment, mon ambition, c'était de faire élire Emmanuel Macron. Je n'avais pas d'ambition autre que celle-là.
À ce stade.
Voilà. Et puis, il y a eu ce fameux appel d'Emmanuel Macron aux femmes. Emmanuel Macron s'était engagé, quand il était candidat, à investir 50% de femmes pour les élections législatives. Et
beaucoup de com aussi.
Beaucoup de com aussi. Mais en tout cas, il s'est engagé à le faire. Et ouais. Il s'est aperçu qu'il n'y avait que 15% de femmes qui avaient candidaté. Et donc, il avait fait un appel vidéo en disant « Mesdames, brisez votre autocensure, candidatez, allez-y. » Et du coup, je me suis dit, finalement, pourquoi pas. J'avais vu aussi qui candidatait sur le territoire. Je me disais, mais finalement, je ne suis pas moins légitime que eux. Mmh. Et donc, j'y suis allée. J'ai été investie et j'ai été élue. Donc, un peu chamboulement dans une vie, dans une vie de famille aussi, parce que j'ai deux jeunes enfants et un beau-fils et une belle-fille. Donc ça chamboule un peu la vie, mais c'est passionnant. Et je me dis, où je suis en tant que députée, j'ai le pouvoir de changer les choses, j'ai le pouvoir de faire bouger les choses. Et donc, j'ai 5 ans, maintenant il reste un an, ou plus, on verra ce que les électeurs disent l'année prochaine, mais pour faire bouger les choses, pour faire évoluer les choses. Et moi, j'ai plusieurs engagements sur lesquels je suis une acharnée depuis le début du mandat. C'est la question de l'égalité des chances, c'est la question de la lutte contre la pauvreté, c'est la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est la question de la lutte contre les discriminations et le racisme. Enfin voilà, en gros, c'est tout ce qui m'a forgée, tout ce pourquoi je me lève le matin.
Peux-tu poser une question alors ?
Ouais, bien sûr.
Qu'est-ce qui vous a fait vous dire que ces combats-là, c'est pas Emmanuel Macron, vous pouvez les mener ?
Eh ben, j'ai cru qu'avec Emmanuel Macron, tout était possible. Et il avait un discours sur l'égalité des chances qui était très fort. Il y avait cette question des dédoublements des classes de CPCE1, par exemple, qui pour moi était vraiment un élément essentiel, cet engagement aussi pour la cause féministe, qui était évident. Il avait eu un très beau discours à la Sorbonne aussi sur les questions d'asile et d'immigration, où je me disais, enfin, on sort du discours raide de la droite ou d'un Manuel Valls dont on venait de sortir. Donc voilà, j'ai vu quelque chose de positif, d'ouvert sur le monde, d'ouvert sur la diversité de la France, et vraiment la volonté de tendre la main à tout le monde et de se dire, voilà, nous, notre programme, c'est lutter contre les inégalités de destin. Voilà ce qu'on disait. Moi, ça me plaît bien, ça, de dire qu'on va lutter contre les inégalités de destin. Par contre, cette année, j'ai bien vu que dans le plan de relance, dans la loi de finances rectificative, on a été défiscalisé encore un peu plus les droits de succession les droits de succession, c'est... pour ceux qui ont des gamins qui créent une entreprise, c'est ceux qui peuvent, quoi. Donc, on favorise un peu plus les fils de ceux qui peuvent bénéficier de leurs parents. Et si on les favorise, clairement, on défavorise ceux qui ne peuvent pas. Donc, il y a le discours sur la lutte contre les inégalités de destin, sur l'égalité des chances. Il y a eu des actes. Mais aujourd'hui, je crois que le bilan, si on met tout sur la table, il penche plus d'un côté que de l'autre.
Ouais. Donc, d'où votre déception, est-ce qui vous a poussé à partir ? Du coup, vous êtes rattachée à quel parti désormais ? Quel
groupe ? Alors, aujourd'hui, moi, je siège chez les non-inscrits donc à l'Assemblée, donc j'ai pas de groupe politique. Et je suis avec les Nouveaux Démocrates, donc, qui a été créé par Amélie Cariou et Aurélien Taché. On essaye de faire vivre nos idées. On est pas mal alignés sur un certain nombre de sujets. On vient de déposer une proposition de loi sur une allocation d'émancipation pour la jeunesse. On essaye de faire émerger nos idées dans le débat public par ce moyen-là. Et j'espère que plus que faire émerger les sujets, on arrivera à en inscrire un certain nombre dans la loi d'ici 2022.
Génial. Merci beaucoup, Fiona Lazare. Je ne vais pas vous retarder plus longtemps.
Merci.
C'est 40 minutes qu'on parle. C'était vraiment chouette. Merci beaucoup pour ces échanges.
Avec plaisir.
C'est très appréciable. Et à bientôt. Bonne chance pour la suite. Bon courage pour le projet de loi. On va suivre de près ce que vous faites et ce qui va sortir là-dessus.
Ça marche. Merci beaucoup, Léa.
Avec grand plaisir. À bientôt, peut-être.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
The secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at OseaMalibu.com.